Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on va passer 2 heures en votre compagnie. On va se régaler pendant 2 heures jusqu'à 20h comme tous les soirs. Et surtout, profitez de nous parce que c'est l'avant-dernière émission avant les fêtes. Et oui, on va profiter de ça comme tout le monde. Et puis de toute façon, on est très heureux vraiment de partager cette émission pendant 2 heures avec vous, avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va?
Bah ça va, je suis content de voir que tu m'adresses encore la parole parce que ça a un peu chauffé quand on a préparé l'émission. T'étais pas très satisfait des débats, mais c'est pour ça que ça va faire une grande émission.
Mais, oui, mais t'aimes m'énerver avant la fin de l'année.
C'est
écoute,
vrai.
En tout cas, j'ai pas besoin de toi parce qu'il y en a d'autres qui m'énervent des fois. On est aujourd'hui avec Christophe Dugarry. Salut Christophe.
Ouais. Salut Jérôme, salut Benoît, bonsoir à tous.
Salut Dugar, t'es en forme?
Ça va très très bien les copains.
Bon, super. Écoute, on va se régaler parce qu'on a notre ballon d'or qui est avec nous, c'est Jean-Pierre Papin.
Ah oui.
Salut JPP.
Salut Jean-Pierre.
Salut Jérôme. Salut Dugas.
Ça va du coup, ça va Jean-Pierre?
Ouais, ça va nickel.
Bon.
Tu vas voir, ça va te plaire les débats JPP aujourd'hui.
Ouais.
Un grand Roten sans flamme.
C'est fait pour toi Jean-Pierre. Hein.
Jusqu'à 20h.
Ouais. Merci.
Avec à 18h30 ce procès que toute la France attend. Le procès de tous ceux qui pensent que Matvei Safonov a relancé la concurrence avec Lucas Chevalier au poste de gardien de but. Grand procès à venir à 18h30 donc dans Roten sans flamme. Autre débat qui va concerner le Paris Saint-Germain, celui qui a rendu fou Jérôme Roten ce matin. 19h, Roten se chauffe. Reverra-t-on un jour le grand Ousmane Dembélé, 32-16, supporter parisien?
C'est ça qui l'a énervé.
Ouais.
Ah bon?
32-16 pour participer au débat. Vous verriez sa tête là, c'est fou les
tags. Non, mais pas du tout. Mais
c'est dingue.
Mais t'aimes ça,
j'adore. À 18h45, un mot de Coupe de France avec un invité qu'on est ravi d'accueillir. Allô Jérôme, Claudio Beauvu, ton ancien partenaire à Bastia.
Je suis content de le revoir.
Grande carrière en Ligue 1, il a gagné la Coupe de France avec Guingamp en 2014. Il évolue aujourd'hui à l'AS Gosier, un club guadeloupéen qui va affronter Lorient ce week-end en 32e de finale de Coupe de France. Claudio sera en studio avec nous à 18h45. On est ravi de l'accueillir. Et puis Jérôme, tu l'as dit, avant-dernière émission de l'année 2025, c'est le jeu de Noël qui est là.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Et s'il y a un jour où il faut jouer, c'est bien aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous allez remporter la case du jour. Où se cachent des MacBook Air, des vacances, des iPhones, des PlayStation 5, des Nintendo Switch 2, grâce à Micromania Zing. Mais surtout aujourd'hui, c'est la journée du double cadeau. Ça veut dire que vous gagnez le cadeau du jour en question aujourd'hui, donc le 18 décembre. Et en plus de ça, vous avez le choix d'ouvrir une case entre le 19 et le 24. Vous repartez avec 2 cadeaux ce soir dans Roten sans flamme sur RMC. Envoyez donc Noël par SMS au 732-16. Noël,
c'est le jour pour s'inscrire aujourd'hui. Bah, deux cadeaux. Vu la tête des cadeaux, c'est magnifique.
Tu pars avec le MacBook Air et la PlayStation 5. Ce serait beau ça quand même. Et pourquoi pas?
Pourquoi pas? Et ça, très très beau cadeau. Je vous dis, vous ne serez pas déçus.
Ouais. Allez,
et
18h30.
Demain aussi. Donc les 2 jours, allez-y.
Il faut jouer. Noël par SMS au 732-16. 18h30 tout de suite. Paris continue d'écrire l'histoire.
Écris l'histoire. Entre les lignes.
Après tant d'années d'attente, c'est un plaisir.
Mendes face à Vicario, c'est parti, et le but! Paris remporte un trophée de plus en 2025!
Safonov, s'il en sort un quatrième de suite, ce serait exceptionnel! Et il le sort!
Mais c'est incroyable! C'est incroyable!
La coupe intercontinentale!
Mais putain, alléluia!
Marquinhos qui embrasse le trophée et il le lève. Le PSG a remporté son 6e trophée.
On est content, on continue à gagner des trophées et je pense qu'on a mérité ce trophée.
Ce qui s'est passé hier est quelque chose qui.
Le Paris Saint-Germain est donc devenu hier soir le premier club français de l'histoire à remporter la Coupe Intercontinentale, victoire au tir au but face au Brésilien de Flamengo, le 6e trophée de l'année pour le PSG, Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, Super Coupe d'Europe et désormais Coupe intercontinentale. Une année inoubliable, impossible à répéter, c'est ce qu'a déclaré Luis Enrique. Parlons-en avec Aurélien Tiercin qui est dans ce studio. Salut Aurélien.
Salut les amis.
Salut Aurélien.
Alors avec ce sixième trophée sur une année civile, Paris est rentré dans un club très fermé hier.
Exactement, parce que sur une année civile, simplement le Barça 2009 et le PSG 2025 a réussi ce sextuplé. On peut ajouter aussi le Bayern Munich 2020 avec Hansi Flick qui l'a réussi sur la saison 2019-2020. Autre petite différence, la Coupe intercontinentale est une sorte de nouvelle Coupe du Monde des clubs, ancienne version, et la Coupe du Monde des clubs que a joué le Paris Saint-Germain est toute nouvelle, avec, qui est plus longue, plus dure. Donc c'est un petit peu compliqué de comparer sur ça, mais en tous les cas, les trois équipes ont gagné donc ces six trophées. Le PSG, tout proche d'un septuplé, pardon, puisque évidemment finale en plus de la Coupe du Monde des clubs perdue contre Chelsea 0-3. Si on prend les compétitions domestiques, le PSG c'est le champion le plus large avec 19 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille. Invaincu jusqu'à la 30e journée de son championnat, mais le Bayern a été le rouleau compresseur habituel et le Barça est peut-être le plus beau champion avec par exemple une victoire 6-2 en 2009 au Real Madrid contre le Bernabéu, 105 buts marqués. En Ligue des Champions, là le PSG ricrac un peu toute la saison pour finalement exploser l'Inter 5-0 en finale. C'est la victoire la plus large de l'histoire en finale justement de la Ligue des Champions. Le Barça a déroulé sur toute la saison, une victoire contre Manchester United en finale 2-0, et le Bayern, c'est l'édition 2020 qui est un peu particulière, le Final 8 avec le Covid, l'édition Covid, mais il y a quand même le 8-2 en quart de finale contre le Barça justement de Lionel Messi. Individuellement, les trois équipes ont eu le meilleur joueur de la saison, deux ballons d'or, Messi 2009, Dembélé 2025. En 2020, le Ballon d'Or n'est pas attribué à cause du Covid, mais le FIFA Best Man, c'est Robert Lewandowski, ah oui, qui avait marqué d'ailleurs 55 buts en 45 matchs. C'est le meilleur ratio des trois, puisque Dembélé n'a marqué, entre guillemets, que 35 buts en 53 matchs. Et c'était un petit Messi, évidemment, entre guillemets, à l'époque, 38 buts en 51 matchs. Après le Paris Saint-Germain, là où il écrase tout, c'est qu'il y a le meilleur coach, Luis Enrique, le meilleur gardien, Donnarumma, et deuxième place pour le meilleur espoir, Désiré Doué, derrière Lamine Yamal.
Merci Aurélien. La une de Rotten sans flamme, est-ce que ce PSG est la plus grande équipe de l'histoire sur une saison 32-16 pour participer avec nous, Jérôme? Est-ce que tu le mets tout là-haut, ce PSG?
Non, mais alors moi, parce que je vais manquer d'objectivité avec tout ce que les émotions que ça m'a procuré cette année en tant que Parisien et en tant que supporter depuis tout gamin de ce club. Forcément, moi, je le place tout là-haut, mais en essayant de penser un petit peu comme les gens, je pense que comme Duga et Jean-Pierre, je sais pas ce qu'ils vont dire, mais je pars du principe qu'ils font partie des meilleurs, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on peut comparer et dire que c'est mieux que Barcelone 2009? Est-ce que c'est mieux que le Bayern 2020? La vérité, c'est que ces trois équipes-là ont marqué l'histoire parce qu'ils ont tout gagné sur une année. Toutes les compétitions qui étaient devant elles, ils les ont gagnées. Le PSG t'a rajouté, donc en effet, la Coupe du Monde des clubs, comme l'a dit Aurélien, et ils sont allés jusqu'à la finale. La finale, ils l'ont perdue. Ils ont pris une leçon contre Chelsea, il faut l'accepter. Mais si tu veux, sur l'ensemble de l'année, quand je vois la maîtrise du Paris Saint-Germain, l'identification au club, parce que pour moi c'est hyper important, et ce qui était le cas de Barcelone en 2009, c'était le cas du Bayern en 2020, le PSG a réussi ça, Luis Enrique et son staff, ils ont réussi ça, le président aussi, parce que il a changé des choses dans la structure du club et dans l'ambiance de ce club, et tout de suite on a senti que les joueurs s'étaient imprégnés de tout ça, contrairement à avant, et c'est pour ça que le PSG a gagné. Donc en fait, collectivement, ça a été la razzia totale, la progression, tout ce qu'on aime du foot de toute façon, voir une équipe en début d'année qui faisait déjà des bonnes choses, hein, ils sont pas devenus très bons du jour au lendemain. En début d'année, on se souvient de l'année dernière, il manquait d'efficacité, ça c'est sûr, il y avait des choses à corriger, mais cette équipe, elle a progressé. Tous les mois, toutes les sorties, elles progressaient pour arriver à enchaîner une constance, une régularité qui était incroyable l'année dernière. Vraiment, la force qu'ils dégageaient, que ça soit sur les matchs de Coupe de France, sur les matchs de championnat ou sur les matchs de Ligue des Champions. Franchement, on a vu à chaque fois une équipe qui, à partir du mois de février-mars, là, qui avait un niveau d'exigence, c'était incroyable. Et vraiment, moi, pour clôturer, si tu veux, cette saison dernière magnifique, historiquement avec cette Ligue des Champions. Tu gagnes 5-0 en finale, tu mets une leçon à l'Inter. Et très vite, on a vite compris, on était au stade, qu'il n'y aura pas de match. Bien sûr que ça marque les esprits et ça marque l'histoire. Et que une équipe comme le Paris Saint-Germain, comme Barcelone en 2009, ou le Bayern, malheureusement pour eux, c'était la période Covid, donc il a manqué un peu cette communion. Et ce qui fait le charme du football aussi, la communion avec les supporters, avec les gens dans le stade et tout ça. C'est sûr que quand tu joues sans supporters, il y a un petit manque. Et le petit manque, c'est pas retirer leur fabuleuse saison au Bayern. Mais la vérité, c'est que 2009 Barcelone et Paris 2024-2025, bah, c'est deux équipes rayonnantes qui, voilà, c'est la totale. Et pour moi, ça va être difficile de les dépasser. Ouais, c'est sûr.
Mais bah de rééditer cette performance.
Ça va être très compliqué à tous les niveaux. En termes de trophées gagnés
et d'impression et de
force collective des joueurs. On va parler tout à l'heure de Dembélé. Dembélé, quand tu vois comment il s'est transformé aussi, ce qu'il refera ou pas, ça on en parlera à 18h30, mais n'empêche que ces joueurs-là ont tellement progressé sur une année, moi ça a été incroyable, et franchement, pour les émotions, le Paris est tout là-haut.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Dugas, alors ?
Oh, c'est difficile. Ce qui est beau, c'est que déjà Paris est dans ce trio-là. Pourquoi il faut en choisir un mieux que les autres? Ces trois équipes-là, ces trois clubs-là vont marquer l'histoire, et c'est bien ça qui est le plus important. Pourquoi à chaque fois qu'il y a trois clubs qui sortent du lot, il y en a déjà trois qui sont extraordinaires, il faut encore en choisir un.
Ouais.
Et sincèrement, j'ai pas envie. Moi, ce que j'aime bien dans l'histoire de Paris, c'est que ils sont en plus dans une année de transition. Donc tout ce qui est arrivé, c'est une surprise. Total. Personne ne s'imaginait ça. On a beau tourner, virer, que ce soit la performance des jeunes, des nouveaux comme Doué, comme Barcola, l'arrivée de Kvaratskhelia au mois de décembre, Dembélé qui fait les 6 mois les plus extraordinaires de sa vie. Est-ce qu'il refera un jour? Je n'en sais rien. Tout un tas de choses, d'événements, de moments surprises qui ont été incroyables. Le Barça et le Bayern, je vais pas te dire qu'ils étaient calibrés ou fabriqués pour faire ce qu'ils ont fait, parce que
non, mais on les a vus venir.
C'est extraordinaire. Mais c'était, il y avait les joueurs pour ça. On sentait qu'ils faisaient partie des favoris.
Il y avait moins d'effet de surprise.
Voilà, il y a moins d'effet de surprise. Je trouve que l'histoire, quand même, cette histoire du Paris Saint-Germain là. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est français qu'on l'a vécu différemment? Je n'en sais rien. Ah. Mais en plus, les mecs sont sympas. Les mecs sont attachants.
Ouais, mais c'est vrai.
Les joueurs sont sympas. Tu vois tout ce qu'ils ont réalisé, réussi. Voilà, je trouve qu'il y a plein de petites choses qui me sensibilisent sur cette histoire du Paris Saint-Germain. Après, si je devais être totalement objectif, moi, le grand Barça, ça, c'est quelque chose de tellement magique, parce que le Barça, il y a toute une histoire de club aussi, mais Paris est en train de le rattraper, ça aussi, parce que on parle de l'équipe, on parle des performances, de ce qui se passe sur le terrain, mais un club de football, c'est pas que ça. Et là où Paris a réussi quand même des choses incroyables, c'est de rattraper ces clubs-là au niveau financier, au niveau recettes, au niveau notoriété, au niveau c'est fou ce que ce club est devenu dans son ensemble. C'est devenu un grand club avec une grande équipe, mais parfois l'un ne suit pas l'autre. Et là, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, en termes de notoriété, en termes de tout ce qui se passe, tout a été décuplé, merchandising, tout ce qui va avec. Donc, ce qu'ils ont réussi quand même en très peu de temps, le Paris Saint-Germain, c'est quand même très très fort. En plus, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de surprises.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, JPP?
Quand tu parles après les deux, c'est compliqué de trouver les sujets, hein, parce que non, moi je suis d'accord un petit peu. En fait, je suis d'accord avec les deux, parce que c'est une des plus grosses équipes que je pense qu'on ait jamais vu. Après, j'aime pas les comparaisons, parce que les comparaisons, on peut les comparer que sur les titres. Après, bien évidemment, ce qu'a dit Dugas. C'est vrai que c'est cet effet de surprise qui est incroyable, parce que personne ne les attendait à ce niveau, surtout après la première phase de qualif de la Ligue des Champions. Mais par contre, depuis qu'ils ont gagné ça, ils sont sur un nuage, quoi. Ils sont sur un nuage et ils assument. Ils assument, même si hier, pour moi, ils l'ont gagné à l'arrache.
Bah hier, c'est le match le plus dur, peut-être, dans tous les titres.
Ça veut dire qu'ils sont capables même de gagner
les titres, ils sont un peu
à l'arrache.
Coupes,
et ça, c'est un vrai plus. il y a la classe, il y a le talent, ça est long, ils l'ont montré, ils l'ont démontré. Et après, après il y a le caractère. Caractère, sur Tottenham, t'es mené, et tu regagnes le match à la fin. Hier, t'as un petit sursaut d'orgueil à la fin. T'as deux trois occasions, mais des occasions qui sont pas vraiment très très franches. Mais tu sens que tu retrouves un peu le pari que t'as vu en début d'année. Et puis après t'as Safonov qui fait des miracles dans les buts en étant 4 pénalties sur 5. Franchement, y a rien à dire. Par contre, la comparaison,
après, c'est l'histoire aussi, parce qu'on se souviendra d'autres histoires. Regarde l'histoire de Zidane au Real Madrid, ça aussi c'est une histoire que des gens s'en souviendront toute leur vie.
Ah évidemment,
le Milan de Sacchi. Alors même s'ils n'ont pas gagné 6 titres,
c'est pour ça qu'on précise sur une saison du gars.
Non mais oui.
Voilà, mais en fait je trouve que
c'est des histoires de foot.
Vous analysez un peu le côté impression laissée, je trouve, si je peux me permettre. Hein,
parce non, que ce qui m'impressionne par rapport au PSG, c'est que en une saison, l'équipe, elle s'est construite. Parce qu'au départ, on espérait, mais on savait pas. Et quand on voyait les matchs de Ligue des Champions, on se disait, oulala, c'est pas si évident que ça. Mmh. Et puis l'équipe s'est construite. Des joueurs se sont révélés, notamment Dembélé sur les 6 mois où il a fait. Et après, il n'y a rien à dire.
Pour le coup, ça, Jean-Pierre.
Même Luis Enrique.
Tu peux parler de tout le monde.
Vont répondre aussi bien à ses attentes. Je pense que lui, il sait ce qu'il va mettre en place. Mais après, les joueurs, ils
répondent. Que l'exécution soit si parfaite.
Mais ce qu'on peut lui mettre à son crédit, et pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Pierre, c'est que, bien sûr, qu'il y a eu l'effet de surprise de voir cette machine-là, machine de guerre, se transformer. Formé à partir du mois de mars, là où tu as l'impression que.
Les adversaires que tu as croisés, Jérôme. Tu as croisé que des cadors après. Regarde la Coupe du Monde des clubs, regarde l'Inter, comme tu les as écrasés au final de Ligue 1. On n'avait jamais vu ça, en fait.
Sauf que ça, c'est le mérite de Luis Enrique. Alors après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais peu importe. Mais son travail, depuis qu'il est arrivé, c'est d'avoir fait la bonne analyse. La vérité, c'est que ça faisait 2 ans qu'il était là, quand le PSG a gagné la Ligue des Champions. En 2 ans, il a eu le temps, pour lui, il n'a pas construit cette équipe en une année, parce que la première année, il y a beaucoup de joueurs qui faisaient partie de cet effectif-là. Mais il a corrigé des choses parce que l'analyse a été bonne, parce que le recrutement a été bon et que ces jeunes joueurs-là ont aussi progressé ensemble. Ça, tu peux pas le savoir, mais c'est un paramètre qui peut nous échapper, nous les observateurs, parce que quand t'es pas dans le vestiaire, c'est comme ça. Mais il faut une alchimie entre les joueurs, parce que pour faire ce qu'ils ont fait, il faut que il y ait des bons mecs dans le vestiaire. Mais il y a pas que des bons mecs, il y a des mecs qui ont une forte personnalité, des égos qui sont différents, et que il faut jouer avec ça pour que tout le monde tire dans le même sens. Et la vérité, c'est que Luis Enrique, il a mis tout le monde d'équerre là-dessus. Non mais c'est vrai.
Non, je rigole parce que le Barça 2009, t'avais Messi, Eto'o, Henry, t'en avais des personnalités.
T'imagines,
Xavi,
t'imagines
des
travail.
Mais
c'est
gérer,
pour,
bien
c'est
sûr.
Pour ça que le travail de l'entraîneur, c'était Guardiola à l'époque, c'est un travail monumental. Après, qu'on aime ou pas les personnages Guardiola, Luis Enrique, mais pour moi c'est des cadors là-dessus, parce que outre ce qu'il nous propose sur le terrain, bien sûr qu'il y a une façon de jouer, et que Luis Enrique, c'était pas gagné, parce que rappelle-toi les critiques, et pourquoi il joue comme ça, et pourquoi il change ça, et pourquoi celui-là il joue là et pas lui, pourquoi il le change de position. À l'arrivée, lui il savait exactement ce qu'il voulait, et Guardiola à l'époque, c'est la même chose dans la façon de d'évoluer. Quand Thierry Henry il t'en parle, il te le dit, hein, de toute façon. Donc pour moi c'est les chefs d'orchestre sont hyper importants, et c'est pour ça que ça nous a marqué. Et que Barcelone, là, pour parler comme Duga ou Jean-Pierre, Barcelone, ça marque. Il faut pas oublier ce qui s'est passé avant. Non. Tu vois, et il faut pas oublier aussi, il y a quelques années, même s'ils ont pas gagné autant de compétitions sur une année, mais le Milan d'Arrigo Sacchi, c'est la même chose, tu vois. Donc, c'est des équipes qui, on était plus jeunes, en effet, mais c'est des équipes qui nous ont marqué. Et il faut pas, surtout pas les effacer. Ouais. Et dire le PSG, parce que ça vient d'arriver et on est en France, le PSG, ils écrasent tout ça, c'est mieux que tout le monde. Non, c'est pas mieux, c'est peut-être différent.
Oui, mais d'un autre côté, pas parce que c'est français qu'il faut minimiser les performances.
Mais pas minimiser, mais pour moi, il y a des équipes qui, et on a de la chance, c'est pour ça qu'on aime le football, et que les gamins s'intéressent aussi au football à travers ce genre d'équipe. Ils s'identifient beaucoup. À l'époque, il y a beaucoup de gamins qui s'identifiaient au Milan de Sacchi. Après, il y a eu le Barcelone, en effet. J'ai peut-être oublié des équipes entre.
L'OM de JPP.
Non, ouais,
Le Real aussi,
Exactement. Donc il y a des équipes comme ça, et c'est pour ça qu'on est passionné de foot et que les gamins sont encore, pour certains, passionnés de football, c'est qu'ils s'identifient à ce genre de clubs et d'équipes. Donc franchement, ce qu'ils ont fait, magnifique. Et hier, en effet, et on l'a dit pendant le commentaire du match, on va pas retenir le match parce que le match était compliqué hier. Ouais. C'était pas le meilleur match du PSG, mais il faut retenir juste le trophée gagné et cet état d'esprit de compétiteur qui a vraiment évolué.
Moi, ce qui me marque peut-être aussi, tu vois, en discutant, c'est qu'on a l'impression qu'en termes de football, on avait un peu tout vu, tu vois, en termes de tactique, d'organisation, en termes de pressing, en termes de 4-4-2, en termes de mecs derrière, et c'est vrai que Luis Enrique, il a réussi aussi à proposer un autre football, quoi. Il a réussi quelque chose de nouveau auquel très très peu de gens s'attendaient. Il a réussi encore à perfectionner ce qui se faisait au Barça et d'inventer encore un nouveau rôle pour notamment les latéraux. Et c'est vrai que ça, quand même, je m'y attendais pas.
Quand tu les vois jouer, Duga, je suis d'accord avec toi, mais quand tu les vois jouer, t'as l'impression de revoir le Barça. Hein. T'as pratiquement, c'est pas les mêmes joueurs.
Ouais, mais
au milieu, petit gabarit, très bon techniquement.
C'est vrai qu'il y a des points communs, mais
il y a beaucoup de points communs quand même.
Ouais, après, il y a un peu plus de dépassement de fonction, ce qu'on appelle dans le comportement des joueurs et le placement des joueurs.
Quand tu es obligé aujourd'hui, Jérôme.
Mais c'est pour ça que c'est tout au mérite et Duga a raison, et que ça vienne de lui, c'est encore plus beau, tu vois. Moi, j'ai même pas envie de rebondir là-dessus, mais de dire que dans le circuit, dans le déplacement des joueurs, voir ce qu'il a réussi à mettre dans le cerveau d'un Nuno Mendes, d'un Hakimi. Nuno Mendes, on l'a fait l'année dernière en interview dans Rotten sans flamme. Exactement. Il nous expliquait ça, son changement lui aussi. Tu vois, l'année dernière, qu'est-ce qu'on n'a pas dit en début de saison? On disait, mais Nuno Mendes, il est bridé. Il est bridé. Hakimi, lui, il y va et lui, il doit être derrière. Mais en fait, il t'expliquait que non, qu'il fallait qu'il réfléchisse aussi au premier déplacement quand il y avait le ballon, l'équilibre. Exactement. Et dans un premier temps, il se rassurait défensivement pour après se lâcher. T'as vu ce que ça a donné. Ouais. Mais t'as raison, Duga et Jean-Pierre, de parler aussi du milieu de terrain, parce que dans l'effet de surprise, ça a été aussi ça, de voir Vitinha stratosphérique, qui était très bon déjà, mais stratosphérique comme il l'a fait et qu'il continue. Joao Neves à côté, un jeune joueur qui s'éclate, Ruiz, que tout le monde voulait, et moi le premier, j'assume, l'année dernière, en début de saison, dire ah, putain, mais il ralentit le jeu, on en a marre de Ruiz et tout ça, purée, pardon. Et puis à l'arrivée, quand tu vois que la complicité des trois, mais c'est fabuleux.
Arnaud, 32-16, supporter parisien, Jérôme.
Salut Arnaud.
Bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Jérôme, bonsoir toute l'équipe.
Bonsoir.
Merci de me prendre à l'antenne.
C'est un plaisir Arnaud. Bon, écoute, j'imagine que tu as savouré les trophées gagnés par le PSG. En tant que supporter du PSG, j'imagine que tu le places tout là-haut, ce club aujourd'hui.
Je suis plus de ton avis Jérôme, j'ai écouté ce que tu disais il y a quelques minutes. Moi je mets le Barça de Guardiola devant quand même.
Et pourquoi alors?
Par rapport, c'est pas très objectif aussi, mais c'est que j'aime beaucoup le jeu de possession. Je sais qu'il y a des gens qui sont moins fans de ce style de jeu. Le PSG de cette année, il ressemble un peu au Barça de Guardiola, mais avec un jeu un peu plus direct.
C'est vrai.
Mais j'aimais vraiment beaucoup voir jouer cette équipe avec Iniesta, Messi, Samuel Eto'o. C'était vraiment. Enfin, je trouve que dans le jeu, ils étaient un poil au-dessus quand même.
C'est vrai que
la plus grosse différence, c'est peut-être dans le pressing aujourd'hui, quand t'as 11 parisiens qui se sont à la gorge.
C'est ça.
Les mecs du Barça, il le faisait pas, mais s'il le faisait pas.
Christophe, excuse-moi.
Le faisait un peu, mais pas autant de joueurs, pas autant.
Vas-y, Arnaud, vas-y.
Tu vois?
Oui, parce que c'était il y a 15 ans, Christophe, mais il me semble que Guardiola, à l'époque, avait déjà un précepte de vouloir récupérer absolument le ballon en 5 ou 6 secondes.
Mais ça c'est vrai. Mais là où Duga a raison, Arnaud, c'est que tu peux pas, quand tu prends le meilleur joueur de l'époque. Alors il y en avait beaucoup, hein, attention. Mais si tu ressors Messi à Barcelone, tu ressors Dembélé au PSG. Et tu vois juste la concentration et les efforts que faisaient les deux à la perte de la balle. Vous avez vu Dembélé l'année dernière, on était le premier à le dire.
C'est pas les mêmes joueurs.
Non. Mais peu importe, ça veut dire que vraiment c'était à outrance, à la perte de la balle, le premier déclencheur du pressing, c'était Dembélé. Messi, tu pouvais pas faire ça.
Ouais, voilà.
Avec Messi, Messi le faisait plus, un petit peu, beaucoup plus que 10 ans après ou 15 ans après, ou quand tu vois le Messi du PSG. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais quand même, il y avait un petit effort, mais pas autant que les Parisiens.
Merci Arnaud qui est venu au 32-16. Et on continue de parler du Paris Saint-Germain dans un instant avec ce procès, donc, évidemment, lié à cette victoire en finale de la Coupe Intercontinentale, cette séance de tirs au but complètement folle. On va faire le procès de tous ceux qui pensent que Matvei Safonov.
Et hier, c'était le même, non ?
A relancé la concurrence avec.
Et demain, on en fera. Tu fais une autre formule sur Safonov.
Il y a une petite différence entre avant-hier et hier, non ?
Ouais, mais hier, on a déjà fait.
Non, avant-hier.
Ah, c'était avant-hier ?
Eh oui. Ouais. Et puisque là, il s'est passé un truc. Safonov, il a fait un bon match. Peut-être un peu, non ? Bon, on en parle dans un instant.
Le match, il n'a pas trop touché le ballon. La séance de tir au but, oui.
C'est grâce à lui que tu as gagné un sixième titre cette année. Tu peux lui dire merci. Merci, Matvei. Non ?
Bah, ouais. Lui et les autres.
Allez, à tout de suite sur RMC. On en débat dans un instant.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h28 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. La deuxième demi-heure de Roten sans flamme, c'est maintenant avec Christophe Dugarry, avec Jean-Pierre Papin, avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, soyez là, parce qu'on reçoit un ancien coéquipier de Bastia, un super joueur et qui continue et qui donne encore aux plus jeunes. Donc Claudio Beauvue sera là dans 15 minutes.
Et on peut l'accueillir maintenant, il est avec nous.
Il est là, voilà, il est en plateau.
Salut Claudio, ça va? Bonsoir, oui, ça va.
Ravi de te retrouver.
Ouais, ça va. Bah ouais, super.
T'as le sourire.
Merci de m'accueillir. Plaisir.
C'est toujours un plaisir de t'accueillir, de te revoir après
des années.
Ça fait quoi? Ça fait 10 ans, ouais, ça fait 10 ans à peu près, un peu plus. Ouais. 10, 12 ans.
C'est ça. Beauvue, grande carrière en
Suisse. Mais t'as pas vieilli, toi.
Mais bon.
Non, il n'a pas vieilli. Jean-Pierre, je te jure, il est à côté de moi.
Des deux, là, en face de moi, celui qui a le plus vieilli, c'est le présentateur. Les gros mots. Claudio, il a le même physique que quand il était joueur.
Tu passeras pas les fêtes.
Claudio, merci d'être là. Tu es joueur aujourd'hui de l'AS Gosier en Guadeloupe et tu vas affronter Lorient en Coupe de France samedi. Tu vas tout nous dire dans un quart d'heure à 18h45. Mais on va profiter de ta présence.
Tu vas retrouver un ancien coéquipier aussi, Cahuzac.
Oui, exactement. Tu vas nous rendre service parce que tu vas participer au procès qu'on va lancer. Tu rendras le verdict dans ce procès qui démarre tout de suite.
RMC, Roten sans flamme.
Pour moi, c'est magnifique, mais je pense que à ce moment, je n'ai pas compris toutes mes émotions, parce que c'est vrai que c'est difficile. C'est premièrement grand finale à mon carrière. J'ai laissé beaucoup d'émotions, et pour moi, c'est incroyable.
Le procès de Roten sans flamme.
Vous venez d'entendre Matvei Safonov, le gardien russe du Paris Saint-Germain, qui parle parfaitement le français et qui a été le héros de cette finale de Coupe Intercontinentale hier. 4 arrêts lors de la séance de tir au but face à Flamengo. Le 4e match consécutif qu'il dispute, il était dans le but parisien. Un choix sportif de Luis Enrique hier, parce que Lucas Chevalier était disponible. Cette prestation a été saluée par tout le monde, y compris Nasser Al Khelaifi, le président du PSG. La question de la concurrence peut se poser désormais. Safonov, 26 ans, très professionnel, très apprécié en interne. Vous avez toutes les infos sur rmcsport.fr. Rappelons que Chevalier, lui, vit un début de saison un peu délicat, mais il a été recruté à prix d'or l'été dernier, 55 millions d'euros. Luis Enrique n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet hier soir. Il a vécu la question. Il a dit, ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais nous, on va le faire.
Safonov, c'est plus de 20 millions, hein, quand même, l'année d'avant.
Eh oui, il avait été acheté.
Oui, non, mais parce que j'ai l'impression que il a été acheté de Francis Sous.
Personne n'a dit ça.
Non, mais écoute, si, mais dans ta présentation. C'est un peu ça.
Le procès de tous ceux qui pensent que Safonov a relancé la concurrence au poste de gardien avec Lucas Chevalier. Le procureur ce soir, c'est monsieur Christophe Dugarry. Bonsoir.
Bonsoir.
Les avocats de cette prise de position sont donc Maître Roten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maître Papin, bonsoir.
Bonsoir.
Et on a donc Claudio Beauvue qui va rendre son verdict dans un instant.
Qui me fera gagner.
Tu écoutes les plaidoiries et tu dis qui t'a convaincu, ok Claudio?
Il n'a pas le choix de me faire gagner.
Allez, allons-y.
Dugas, il va perdre contre Lorient.
Dugas, pour toi, il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de concurrence entre Safonov et Chevalier.
Bah non, il ne faut pas qu'il y en ait.
Pour moi, il n'y en a pas, il ne faut pas qu'il y en ait. Je pense que qu'en faisant signer Chevalier, ils l'ont pas fait signer pour 4 mois. On savait que chez ce garçon, il y avait une énorme marge de progression. Quand Luis Enrique a pris Chevalier, il n'a pas pris parce qu'il était au niveau de Donnarumma. Il a pris parce qu'il pensait qu'il pouvait apporter quelque chose de différent que Donnarumma, notamment au niveau du jeu au pied, et qu'ensuite, il pourrait être aussi fort un jour avec la progression, avec le travail, avec les consignes de ses coachs, avec beaucoup de travail collectif aussi, jouer au niveau de Donnarumma. Donc aujourd'hui, couper les ailes de Chevalier parce que Safonov a arrêté 4 pénaltys, a fait une bonne rentrée, a montré que c'était un gardien de qualité, je trouve ça totalement prématuré. Après qu'il y ait une concurrence entre les deux qui s'installe pour pouvoir justement tirer l'un et l'autre vers le haut, moi, ça me choque pas plus que ça. Mais je trouve que Chevalier, aujourd'hui, a mérité de continuer à être le numéro un, qu'on prenne son temps, qu'on soit patient avec lui, parce que je pense que sincèrement, si tu mets aujourd'hui, tu changes cette hiérarchie-là, tu vas peut-être plomber les deux. Parce que Safonov, il a montré que c'était un très bon gardien, on n'en doutait pas, ils l'ont pas eu gratuit, comme l'a dit Jérôme, ils l'ont pas eu gratuit, ils l'ont payé 20 millions d'euros, on savait que c'était un bon gardien. Après, j'ai toujours pensé malgré tout, et je pense que les dirigeants l'ont toujours pensé aussi, autrement ils auraient pris Safonov en numéro 1, que Chevalier a le potentiel pour être parmi les plus grands gardiens du monde. Aujourd'hui, il ne l'est pas, c'est certain. Mais est-ce que vous êtes sûr que Safonov, les 3 prochains matchs, il va pas se trouver aussi, et il va pas faire des boulettes? On n'en sait rien non plus. Il y a aucune garantie de la part de Safonov que ce soit non plus Donnarumma. Donc à un moment ou un autre, Safonov a montré que c'était un gardien de bon niveau, de très bon niveau, et ça tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ils ont la certitude de quoi? Ils ont la certitude qu'ils ont 2 très bons gardiens. C'est quand même ça le plus important. Pourquoi? Parce qu'il y en a. Et alors, c'est-à-dire que si Chevalier, il revient, il fait 2 bons matchs, on va dire, ah ben Chevalier, il a repris sa place, il a montré à Safonov qu'il était plus fort. Mais tu vas pas faire une saison, à chaque fois qu'il y en a un qui fait une performance, à dire, oui, mais il est plus fort que l'autre, il est plus fort que lui, il a montré que c'était le meilleur. Non, un gardien, c'est pas ça, c'est un poste particulier. Je pense que Chevalier, tu dois en plus, Chevalier, il t'a fait perdre aucun match, il t'a fait perdre aucun titre.
Ah, il a fait quelques erreurs.
Effectivement, mais on le savait,
il a fait perdre le match à Marseille.
Ouais. Chevalier, il a tout à démontrer. C'est un jeune talentueux, mais il n'est pas international.
C'est pas n'importe
quel
match.
Il n'a pas encore les épaules.
Ça y est, il est international. Il a pris un but.
Mais il joue pas. C'est pas le gardien de l'équipe de France. Non, mais c'est pas le gardien de l'équipe de France non plus. Aujourd'hui, il a tout à prouver. Il est en train de le faire, étape par étape. Mais je trouve que ça serait la pire des situations que de lui mettre des bâtons dans les roues et de lui mettre Safonov comme ça dans la concurrence.
Parole à la défense, Maître Rotem.
Déjà, la réponse, concurrence ou pas, c'est le cas. Sinon, Safonov, il n'aurait pas enchaîné les matchs. Alors, il a profité de la blessure de Chevalier à Monaco, cet attentat-là qu'a subi Chevalier, pour jouer les 2 matchs de championnat qui ont suivi. Le premier, je vous l'avais dit, et même la Ligue des Champions, le premier, je vous l'avais dit, que en effet, il ne pouvait pas jouer. Le deuxième, il pouvait jouer, mais il se posait des questions. Et je pense que en se posant un peu trop de questions, en effet, il a donné l'opportunité à Safonov de montrer qu'il avait aussi du talent. Le russe. On reste sur l'image de l'année dernière, je me souviens au Bayern, où là aussi, c'était un petit peu à la méritocratie, le management des gardiens de Luis Enrique. L'année dernière, on se rappelle que le début de saison, Donnarumma, il est quand même hésitant par moment, comme la plupart des joueurs, qu'il n'est pas décisif quand il doit être décisif. Pour preuve, c'est que le PSG manquait cruellement d'efficacité dans la zone offensive, mais dès qu'il y avait une occasion de l'équipe adverse, il y avait but. Alors qu'il soit responsable ou pas, mais il n'était pas décisif.
Il y avait eu l'Atlético comme ça. Il a perdu 1-0.
Exactement. On était au parc et je me souviens très bien. Et il y en a eu d'autres aussi. Et puis après, il y a eu ce match donc au Bayern l'année dernière où, à la grande surprise, il met Safonov. Safonov se trouve comme Donnarumma aurait pu le faire, c'est-à-dire la sortie, on se souvient, sur corner, ils prennent le but, ils perdent 1-0. Bon, allez, vite, c'est réglé. De là, Donnarumma, il a repris sa place, il a rejoué. Et Donnarumma est devenu indéboulonnable. La vérité, c'est ça, c'est qu'il a enchaîné tellement des bonnes perfs que tu pouvais plus le bouger. Et que Safonov, il a rongé son frein. Il a joué les matchs de Coupe de France, et on l'a dit hier, et je l'ai dit, il a quand même gagné la Coupe de France en étant décisif aussi. Alors, c'était pas des matchs couperets, des matchs très compliqués pour le PSG, mais n'empêche qu'il a au moins le mérite de gagner un trophée.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, alors?
Et aujourd'hui, en fait, le statut en début d'année, quand tu prends Chevalier à plus de 50 millions, bien sûr que c'est pour le mettre planète numéro 1. On est pas débiles. On sait très bien, ils l'ont acheté 50 millions, Safonov 20 millions. Safonov était la doublure de Donnarumma. Donc ils mettent Chevalier. Le problème, c'est que je pense qu'ils s'attendaient pas, en effet, qu'il y ait un temps d'adaptation qui soit long comme ça pour Chevalier, où en effet il a pas été décisif, il a fait quelques conneries, que Luis Enrique l'a toujours protégé en termes médiatiquement dans sa communication, en disant moi j'ai pas de doute, je suis content de ce qu'il fait et tout ça, mais au fond de lui il était pas si satisfait que ça. Là, pour preuve, c'est qu'aujourd'hui Safonov il a profité de la blessure, il a enchaîné les bonnes perfs hier. Il te fait une perf XXL et encore plus. Même un gardien en Europe n'avait pas réussi à faire ça, sortir 4 pénalties sur 5. Ouais. Donc aujourd'hui, il dégage beaucoup plus d'assurance que Chevalier, c'est la réalité. Donc pour moi, à court terme, en effet, dans la hiérarchie, et je l'ai dit avant le match, il a repris du crédit. La hiérarchie, elle a un peu évolué, mais ça veut pas dire pour autant que Chevalier, il est mort. Chevalier, il est pas mort. Chevalier,
non, toi, il y a une concurrence, mais Chevalier.
La concurrence a toujours existé, mais aujourd'hui, c'est très simple. Un gardien indéboulonnable comme Donnarumma. L'année dernière, il y avait la concurrence pareille, sauf que Donnarumma a été incroyable, indiscutable sur les 6 derniers mois. Ouais. On pouvait pas, on parlait plus de est-ce que c'est Safonov, est-ce que c'est Donnarumma, contrairement aux autres années. On est d'accord là-dessus. Ouais. Donc là, pour l'instant, il y a ça parce que Chevalier n'est pas indispensable, en effet, et que Safonov a été bon. Moi, je dis juste que si Safonov, et je pense qu'il va continuer à jouer dans un premier temps, Safonov continue à enchaîner des bonnes perfs, comment tu veux expliquer à Safonov qu'il a reperdu sa place par rapport à un Chevalier qui est hésitant ? Donc oui, aujourd'hui, à court terme, alors, Safonov est passé devant Chevalier, mais pour autant, dans la stratégie du club et dans la progression de Chevalier, tu verras qu'à un moment donné, Chevalier reprendra la place dans le but et ça sera à lui de montrer une progression.
Jean-Pierre, quel est ton avis là-dessus, toi ?
Moi, je pense que Safonov a remis les clés de la concurrence au goût du jour, parce que je pense que depuis quelques matchs quand même, il est bien meilleur. Il s'est affirmé. Il a fait des matchs où il a quand même sorti des parades assez incroyables. Je pense que sur ce match d'hier, aujourd'hui, tu peux pas lui dire demain tu reprends ta place sur le banc. Quoique on l'a déjà vu. Mais moi, je pense que aujourd'hui, je pense qu'il faut lui laisser encore une chance de montrer que. Après, peut-être que Chevalier aussi a des clauses dans son contrat qui lui disent qu'il est numéro un. Même si j'ai un doute, mais bon, sait-on jamais.
Ça, c'est pas sûr.
Mais bon.
Tu ferais quoi en tant qu'entraîneur, toi, alors?
Alors, je sais que les deux qui sont, enfin, Jérôme, il est avec moi parce qu'on est dans la même équipe aujourd'hui, donc, ça se fait pas ce que je vais dire, mais peut-être à un moment, avoir un management où, t'essayes de faire jouer les deux, un peu plus souvent.
Donc, tu fais une alternance entre les gardiens. Ça peut être une solution.
Je sais que c'est compliqué, je sais que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais quand t'as la chance d'avoir deux très grands gardiens, pourquoi
t'en priver ? Ça marche jamais, ça, Jean-Pierre, ça marche jamais, ça.
Je sais, mais je viens de te dire. Je sais, mais voilà, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Ça, voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, Safonov est au niveau, et voilà.
Claudio Beauvue va nous rendre son verdict.
Moi, perso, je rejoins Jérôme et...
Aïe. Ah bah non, mais ils ont pas le même avis.
Bah si.
C'est soit la team Dugas, soit la team Jérôme.
Oui, mais vous rejoignez beaucoup au final sur la conclusion. Donc voilà, Chevalier aujourd'hui, j'adore ce gardien en plus. Il y a un temps d'adaptation. Il vient d'arriver dans un très grand club, un club qui vient de remporter la Ligue des Champions. Il a évidemment la pression, c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est un autre football.
Ouais.
Il faut qu'il s'adapte. Qui s'adapte comme le gardien russe là qui s'est adapté aussi, il arrivait quand
l'année dernière
quand il a remplacé aussi, il n'était pas
il a fait quelques boulettes
friable, donc voilà, il faut laisser cette confiance à Chevalier et petit à petit lui redonner sa chance, lui redonner ses matchs, mais lui donner cette confiance que c'est lui le numéro 1.
Voilà, donc c'est plutôt Dugas, alors, si je comprends bien, le numéro 1, ça reste
mais après c'est vrai qu'on se rejoint avec Dugas pour l'instant.
Non, mais c'est pas parce que c'est ton pote,
non, mais c'est vrai. c'est vrai que à l'arrivée, à court terme, je pense que Safonov va continuer à jouer et comme ça, ça permettra peut-être à Chevalier de dégager cette pression négative. Et voilà. Puis au bout d'un moment, il sentira. Mais ça, c'est le management de Luis Enrique et je pense qu'il sentira le coup de remettre. Mais moi, je vous le dis, hein, je vous le signe. Ah, tu verras qu'au mois de février, quand le PSG sera en 16e ou en 8e, j'espère, directement en 8e de Ligue des Champions, tu verras que Chevalier sera dans les buts.
Et bravo à Christophe Dugarry qui a réussi à convaincre Claudio Beauvu alors que c'est le pote de Jérôme Bretagne. Ça, c'est fort. Bravo Dugarry. C'est une belle victoire dans un procès quand même. Celle-là, elle sera marquante.
Ouais.
Allez, dans un instant, allô Jérôme, justement, mais à l'honneur Claudio et cette belle équipe de l'AS Gosier demain.
L'AS Gosier.
Samedi, c'est la Coupe
il
de France
dit,
à Bondoufle.
On a de grandes chances de gagner demain.
Ouais. Non, à Lorient, club de Ligue 1, l'AS Gosier
s'entraîne à Clairefontaine. Il n'y a aucune qualité à Lorient.
Voilà, on vous raconte tout dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h45 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit la première avec le Allo Jérôme et Claudio Beauvu qui est là et qui va nous expliquer tout ce qui va se passer demain avec samedi, le match de Coupe de France à AS Gosier contre Lorient. On est avec Christophe Dugarry, avec Jean-Pierre Papin et avec Benoît Boutron. Et après 19h.
Ah, un grand débat. Roten se chauffe. Roten va se chauffer.
Oui.
Parce qu'on posera la question. Reverra-t-on un jour le grand Ousmane Dembélé 32-16 pour participer avec
la boule de cristal, elle est où?
Elle est tout de suite à l'eau, Jérôme. Elle sera à toi.
RMC, Roten sans flamme.
Il faut qu'Obadi soit à l'entrée de la surface.
Ouais, allez, Obadi, voilà, il est
interrogé. Oui! Oui, la tête! La tête au premier poteau de Claudio Beauvu qui sauve les meubles sur ce corner de Nanik. Le stade s'est tu.
Allô, Jérôme.
Premier but de Claudio. Claudio, tu te souviens?
Ah ouais, je m'en souviens, c'était contre Dijon.
Et ben voilà. Ouais. Grande carrière, Claudio Beauvu. On est ravis de te recevoir. C'est un grand week-end de Coupe de France à vivre sur RMC, les 32e de finale. L'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Quelques petits poussés, dont fait partie l'AS Gosier, club de Régional 1 en Guadeloupe. Tu es parti rentrer comme ça sur ton île cet été, en famille, et tu as signé à l'AS Gosier. Magnifique histoire. C'est la première fois que l'AS Gosier atteint ce niveau de la compétition. Vous allez affronter Lorient, donc samedi en Coupe de France. Et vous vous entraînez depuis quelques jours à Clairefontaine. Le choc thermique est difficile pour certains, c'est ce que tu nous disais.
Oui, depuis mardi matin, voilà, il y en a certains, c'est la première fois qu'ils rentrent en France. Et donc là, je peux vous dire qu'ils ont très froid, ils ont très froid depuis notre arrivée. Mais après, on est très bien à Clairefontaine. Voilà, on est dans de très bonnes conditions. Ouais. On s'entraîne comme on veut avec toutes les installations qui sont à notre disposition et ça nous permet tranquillement de préparer ce match.
Vous êtes où dans le château?
Non,
vous êtes dans les annexes.
Non, pas dans le château. Ouais, on est dans les annexes.
D'accord.
Non, dans le château.
Ils auraient pu. Il y a personne à cette période.
Non, ils laissent pas. Non. Pas comme ça. On va le visiter par contre demain.
Ah, magnifique. D'accord.
Demain, on peut le visiter.
Bon. Vous verrez la chambre Jérôme Bretagne, la chambre Christophe Dugarry et la chambre Jean-Pierre Papin.
Ouais.
Les trois. Quel est le profil de tes partenaires? Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui veulent percer et aller plus haut dans le foot français. Est-ce qu'il y a quelques anciens pros comme toi qui terminent comme ça et qui rentrent en Guadeloupe?
Il y a Michael Alphonse.
Ouais, Michael Alphonse qui a été
que j'ai réussi à convaincre carré. Parce que lui il voulait pas repartir.
Ouais,
il voulait pas repartir. Okay. Donc je lui ai dit allez, viens faire une pige avec moi. Il y a Richard Saucrier, tiens.
Ah d'accord.
Richard,
c'est pas vrai.
Aussi. Ouais. Okay. Richard qui a repris une licence.
Mais quel âge il a, Richard aussi?
Ouais, je sais pas. Mais
il y a pas d'âge.
Il est toujours aussi jeune.
Non, mais c'est dingue.
Son visage, c'est incroyable. Et après oui, on a des profils de joueurs, un jeune joueur comme Boboche, Willan. Qui est un excentré, qui est assez rapide et qui a 19 ans, qui a un profil pour un club peut-être de National 2, voire National 3 à voir. Et sinon, c'est des anciens. Cette année, on a recruté beaucoup de joueurs confirmés en Guadeloupe pour essayer de justement arriver le plus loin possible dans cette compétition et les autres compétitions qu'on a aussi au pays.
Ça doit être génial pour toi de vivre cette expérience-là, de faire donc le meilleur parcours de l'histoire du club. La première année, tu reviens, vivre ces émotions-là. J'imagine que tu t'attendais pas à ça quand tu as signé.
Non, du tout. Hein, franchement, avant de rentrer en Guadeloupe, j'ai vécu deux saisons au RC Calais.
Ouais.
Pareil, on était en R1, on a réussi à jouer Caen la première année à ce stade de la compétition, puis la suivante face à Strasbourg.
Tu voulais te faire mal en signant à Calais avant de repartir en Guadeloupe ou...
Tu voulais du froid avant de rentrer ouais. Et de la pluie.
Ouais, je te jure. Non, mais c'est que je quitte l'Espagne et j'étais au déport, donc après je signe à Boulogne-sur-Mer. Mm. Et après Boulogne, voilà, il y a eu.
Ah ouais, t'as fait que les belles régions, là.
Non, franchement, en revenant d'Espagne, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais là? Ouais, c'est vrai que là, je me sentais comme mes coéquipiers.
Ouais, compliqué.
La Coupe de France, c'est particulier pour toi, parce que c'est peut-être la plus belle ligne de ton palmarès. Tu l'as gagné avec Guingamp en 2014. Du coup, tu transmets ça à tes coéquipiers, l'importance de la Coupe, gérer ces matchs de Coupe.
Depuis le début, je leur dis que voilà, la Coupe de France, il faut surtout pas se prendre la tête et le prendre aussi à la légère.
Ouais.
C'est des matchs où il y a une magie extraordinaire. Tu peux jouer contre Lorient samedi, l'équipe de Ligue 1 et remporter ce match. Il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire, il faut se donner les moyens et rêver surtout.
Mais c'est ce qui fait le charme du foot et toi, t'as un rôle essentiel avec les deux, trois anciens aussi que tu as cités, qui ont aussi fait des bons parcours en Coupe de France, pas comme toi, mais l'expérience aussi du professionnel qu'on était joueur là avec les clubs professionnels et qu'on jouait des équipes amateurs, c'était un calvaire par moment.
L'année où on la remporte avec Guingamp, on joue Concarneau.
Concarneau,
on était mené, je crois, à la 85e, un truc comme ça, et j'égalise à la 90e, et après, on fait la différence.
Mais gagner,
cette année-là, tu vois, tu peux être éliminé et ne pas faire un parcours comme on l'a fait avec Guingamp. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours y croire. Et on avait un groupe très humble à Guingamp, et c'est ce qui nous a permis de faire la victoire en 2014, et puis la demi-finale l'année d'après.
Claudio, est-ce que
Jérôme, aujourd'hui, c'est 90 minutes. C'est plus comme avant.
Oui, en plus, t'as plus les prolongations.
90 minutes, c'est pas la même chose. Hein.
C'est sûr que dans la gestion, c'est différent. Même le club pro, par moment, il peut avoir une pression particulière si tu gardes le
résultat. Nous, en tant que favoris, justement, en Guadeloupe, pour revenir à notre île, les équipes, c'était ça. Hein. Ils essayaient de nous tenir. Jusqu'à la vie, on est passé deux fois comme ça.
Et oui. Non, moi, la question, c'est pour ton avenir. Alors, bon, tu vas continuer à jouer encore quelques années ou tu t'es dit, non, bon, écoute, je fais une pige et puis l'année prochaine, on verra. Est-ce que dans un second temps, tu as envie de rester dans le foot et pourquoi pas être entraîneur je sais pas, le rôle que tu as là dans à l'AS Gosier, ton entraîneur, tu échanges beaucoup avec lui?
Oui, j'échange beaucoup avec lui. On essaye d'apporter son expérience aussi parce que c'est un ancien professionnel aussi. Au niveau, il a joué Ligue 2, il a connu quand même le monde professionnel. Donc on essaie d'échanger beaucoup et ensuite avec les dirigeants du club, surtout sur la formation, apporter mon expérience là-dessus, les guider sur certaines choses. C'est très important. Après, on a beaucoup de problématiques aussi au pays. Il manque pas mal d'infrastructures. D'abord,
les moyens, c'est
compliqué. Hein. Nous, pour vous dire, on n'a pas de local. C'est compliqué. Donc, on fait avec les moyens du bord. C'est le stade de la ville où on s'entraîne. Mm-hmm. Mais il y a quatre équipes dans cette ville. Donc, pour trouver des créneaux pour s'entraîner.
Ah oui, c'est pas facile. Ouais.
C'est pas facile. Mm-hmm. Donc voilà. À la suite de ça, j'essaierai dans les années à venir, de m'introduire un peu plus dans le football guadeloupéen.
Est-ce que tu as envie de les accompagner, ces jeunes guadeloupéens, avec du talent, de les aider comme ça à venir en métropole et à trouver les centres de formation?
C'est le but de mon retour aussi au pays. Non seulement de me rapprocher de ma famille, mais aussi de donner tout ce que j'ai pu connaître en Europe et surtout en France à mon île. Donc ce sera trouver les bons partenariats et les bonnes connexions avec les gens qui ont envie vraiment d'aider ces jeunes Guadeloupéens et demain j'espère y contribuer.
J'ai une question moi quand même. Est-ce que t'as toujours cette détente légendaire? Parce que Claudio Beauvu, c'est surtout ça. C'est une détente incroyable. Non mais c'est fou.
Ouais, ça va.
Ça saute toujours aussi haut.
On travaille pour.
Ton rôle a évolué. Tu joues neuf toujours
Toujours neuf. Après, j'aime bien comme Jérôme revenir un peu toucher le ballon. Mais j'ai pas son pied gauche.
Il a pas ton jeu de tête.
Ça c'est clair que j'avais pas le jeu de tête. Et c'était plus facile de jouer avec des joueurs comme ça parce que tu peux te tromper aussi sur.
Comme ils sautent haut.
C'est d'une galette, mais ils sont très hauts.
Comment tu l'appréhendes ce match face à Lorient? Tu te dis, il faut surtout serrer le jeu, bien défendre, et après on verra ce qui se passe. Vous y allez avec un peu d'ambition, vous visez les tirs au but.
C'est la gestion émotionnelle. Il y a eu pas mal d'effervescence autour de nous. Donc maintenant, ce sera bien gérer cette partie-là avec les gars et essayer de jouer notre jeu. Voilà, être solidaire sur le terrain, ça va être très compliqué, très compliqué. Mais la Coupe de France, c'est la magie. Donc on ne sait jamais. Si on arrive à être solidaire entre nous et à garder le plus longtemps possible le score vierge ou voire à égalité, ça nous donnera le plus de chances pour passer.
Claudio, le niveau, moi j'ai une question sur le niveau de la R1 là-bas en Guadeloupe. Je connaissais la R1 à la Martinique parce que j'ai des anciens joueurs là-bas. Ils ne sont plus joueurs aujourd'hui parce qu'ils ont mon âge, mais qui ont été formés aussi en France et qui sont repartis là-bas en Martinique. Et ils me disaient que le niveau de la R1 n'était pas forcément le même niveau que la R1 en région parisienne. Est-ce que en Guadeloupe ça se rapproche?
Guadeloupe et
La R1 en Guadeloupe et la R1 en région parisienne.
Ouais, c'est vrai que on a.
Il y a un écart.
Ouais,
quand même.
Il y a un écart quand même. Après, ça se rapproche plus où j'ai joué à Calais.
D'accord.
Par rapport à la région du Nord.
Ouais.
Donc, mais à Paris.
Paris, c'est solide.
Ouais, c'est solide. Ouais. Moi, j'ai joué en N3 justement à Ivry.
Ouais,
ça valait une N2.
Ah bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, j'ai entraîné une R1
au plaisir romain. Est-ce que t'as ce regret qu'on dénonce systématiquement de ne pas pouvoir accueillir une Ligue 1 en Guadeloupe?
Oui, c'est vrai que c'est dommage pour notre public. C'est dommage de pas recevoir des professionnels et même pour les enfants. Quand il y a les gamins, déjà ils regardent tout le temps le football.
Mais comment tu l'expliques ça?
Surtout qu'il n'y a plus d'excuses de calendrier, parce que regarde les Ligue 1 là, c'est la trêve.
Déjà il n'y a plus d'excuses de calendrier. Les infrastructures, bon, on t'en parlait, mais bon, vous avez quand même un stade qui est capable d'accueillir.
On a reçu une N3.
Bah oui, et puis surtout moi, j'ai fait partie aussi de la seule fois où l'équipe de France est venue jouer aux Antilles, en Martinique. C'était en 2005, au stade à Fort-de-France. Et l'équipe de France, quand elle va là-bas, en termes de sécurité, tout était nickel. Donc, comme quoi, tu peux te donner les moyens d'organiser un match de Coupe de France.
Qu'est-ce qui empêchait Lorient de se déplacer en Guadeloupe sur ce week-end-là?
Je pense pas Lorient spécialement, mais je pense ces critères-là à ce niveau-là. Le club guadeloupéen, il doit se déplacer en France. C'est dommage. C'est dommage parce que tous les gamins et moi, rencontrer des professionnels, les rapprocher, les toucher, voir. Ça donne un peu d'espoir. Moi, quand j'étais petit, j'ai eu la chance.
Ouais, des exemples, de toute façon. Ouais,
moi, j'étais à Monaco, jeune, dans un tournoi, un tournoi à Monaco.
Et c'est là derrière, que j'ai rencontré, tu t'es fait repérer.
Derrière, je me suis fait repérer. C'est là que j'ai rencontré Thierry Henry et je suis revenu au pays. Et c'est quand t'as vu des jeunes comme ça, ça t'a donné cet espoir de devenir comme un jour.
Tu parlais de ta carrière le début. Moi, c'est plus sur l'ensemble. Maintenant, t'es plus à l'heure du bilan sur ta carrière. Est-ce que t'as des regrets sur ta carrière? Moi, on a joué à Bastia ensemble. Moi, je te trouvais avec beaucoup, beaucoup de qualité, vraiment. Est-ce que, tu te dis pas, tiens, si j'avais fait ça, ça aurait été mieux, ou tu es comme très souvent on le dit, déjà faire une carrière c'est incroyable et il n'y a pas de regret?
Pas vraiment de regret. Le seul regret que j'ai, c'est mon opération au tendon d'Achille. C'est ce qui m'a freiné pendant 5 ans. Quand je suis revenu à Boulogne, justement, j'ai eu une inflammation avec des germes de staphylocoque au niveau du tendon. Et le doc m'a dit justement, comment t'as fait pour jouer 5 ans comme ça? Et je venais de signer au Celta Vigo quand je quittais Lyon.
Ah oui, d'accord.
Et j'avais déjà eu des problèmes de tendinite à Guingamp. Et l'année de Lyon, je voulais me faire opérer, mais on attendait la fin. Et bon, après, je suis.
Et Lyon, c'est pas un regret? Comment ça s'est passé?
Bon, pas forcément. Les gens, ils savent pas, mais.
Non, mais.
Avec monsieur Aulas, ça se passait très bien. Il voulait me garder. C'est moi qui voulais partir.
Ah bah d'accord.
Pour mes raisons.
Bon.
Que je dirais pas ici.
Non, ça te regarde.
C'est comme ça. Mais aucun regret de Lyon, ça s'est bien passé, j'ai encore des amis mais c'est cette blessure qui m'a traîné et je pensais, tu vois, un peu comme Thomas Neymar. Aujourd'hui qui a du mal à revenir.
Oui,
exactement.
Oui.
Et moi je pensais pendant cette année-là, quand je suis revenu au Celta quand on fait justement la demi-finale face à Manchester, je pensais être bien revenu et tout, mais au fur et à mesure, tu descends au niveau de ton standing et tu te dis bon bah, c'est à cause de la blessure.
Ça doit être dur à vivre. Hein.
Ouais. Franchement. Ouais. Ouais. Enfin, franchement, écoute, c'était horrible.
Bah, merci Claudio Bobu, merci beaucoup. Dans Rotten sans flamme.
Merci à toi.
Bon courage.
Merci à vous.
Samedi 20h30, à Bondoufle. Hein.
Non, 15h30.
À 15h30.
15h30,
ouais, 15h30 Bondoufle.
Déjà,
voilà, déjà. Exactement. Au moins, vous jouerez dans l'après-midi.
15h30.
Face à Lorient. AS Gosier, Lorient. Match à suivre.
Je pense que je vais y aller.
Donc, bah ouais,
cool. Bah ouais, il y a Claudio. Bah il voilà, y a KU de l'autre côté.
Pourquoi pas.
Bah ouais. Écoute. Bon. J'aimerais bien qu'il fasse l'exploit. Comme ça, je pourrais chambrer KU.
Merci Claudio. Bon retour merci à Clairefontaine.
Allez, bon courage en tout cas.
Et à bientôt sur RMC. Dans un instant, Rotten se chauffe.
On embrasse toute la Guadeloupe, bien
exactement,
sûr.
Exactement, qui nous écoute d'ailleurs.
Et la Martinique. Hein.
Reverra-t-on le grand Ousmane Dembélé à tout de suite sur RMC pour en débattre avec nous.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.